10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Emmanuel Dutheil.
Bonjour Jean-Baptiste Djebbari.
Bonjour à vous.
Vous êtes donc ministre délégué au transport. Vous connaissez très bien toutes ces questions puisque vous êtes ancien pilote d'avion. Un grand merci d'avoir accepté ce matin notre invitation. Alors le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est de ne pas tomber malade. C'est ce que nous a dit Jean Castex hier. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a fait sourire, voire rire jaune sur les réseaux sociaux hier. Il faut dire que la pandémie de Covid-19 semble aujourd'hui hors de contrôle en France. La faute à qui ? On va voir ça dans un instant. 2/3 des Français sont sous couvre-feu. L'adage métro, boulot, dodo a rarement eu autant de sens qu'en ce moment. La volonté de l'exécutif est claire, tenter de concilier activité économique et risque sanitaire. Jusqu'à quand tout cela sera possible ? Doit-on imaginer un reconfinement ? Plus que jamais, c'est l'incertitude en ce moment qui prime. Pourra-t-on aller tout simplement à Noël dans nos familles ? Une question qui intéresse beaucoup de nos auditeurs et téléspectateurs. D'ici là, les avions sont cloués au sol, les TGV sont quasi vides la semaine. Comment sauver la SNCF et Air France ? Une urgence économique dans un pays secoué une fois de plus par l'islamisme. Le gouvernement promet enfin, diront certains, des actes. Que faut-il faire ? On a une heure, Jean-Baptiste Djebbari, pour tenter d'apporter aux Français toutes ces réponses. Alors pour vous interroger en ce dimanche matin, j'ai le plaisir d'être avec Nicolas Barré des Échos et Damien Fleurot de CNews. On va débuter tout de suite par un de vos collègues, en l'occurrence Olivier Véran. Il a défendu hier la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Pas d'unanimité en séance à l'Assemblée. Le ministre de la Santé a mis du coup l'opposition face à ses responsabilités.
À ceux qui considèrent que les mesures ne sont pas bonnes, je dis et je redis, dites-nous quelles sont vos propositions. Comment comptez-vous protéger la vie des Français et lutter contre ce virus ?
Jean-Baptiste Djebbari, on entend le ministre de la Santé, mais l'épidémie est visiblement hors de contrôle malgré les gestes barrières, malgré le couvre-feu, malgré la politique de test. Que peut-on faire ?
D'abord, je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur ou de recul. Le président de la République l'a très bien dit. Il y a des certitudes et puis une part d'incertitudes assez grande que la science n'explique pas encore. Les certitudes, c'est que le virus tue, on le sait, un peu comme une grippe, 0,5%. Beaucoup les personnes âgées, mais des formes graves sont présentes sur toutes les catégories de population et donc c'est un virus dangereux et qui circule. Et puis il y a des incertitudes qui sont nombreuses. On connaît encore mal ce virus, on connaît mal les formes de contamination, de propagation. Et c'est vrai que, comme souvent d'ailleurs dans l'histoire, la technique en quelque sorte précède la science. Et on voit bien qu'on arrive à mieux prendre en charge les patients dans les hôpitaux. On sait, avec les protocoles anticoagulants, avec les ventilations qui sont moins invasives, avec finalement ce que les praticiens ont appris sur le terrain, on arrive...
Ça, c'est pour
l'amont, c'est la prise en charge. Et en gros, on sait mieux prendre en charge les patients qui sont atteints d'un Covid positif. Ce qu'on essaie de faire depuis le début, c'est d'abord apprendre des autres, regarder ce qui se fait à l'étranger, évidemment, et dans l'ensemble des secteurs. Regardez,
à l'étranger, on reconfine.
Pas tous les pays. Ce que je veux dire, c'est qu'on apprend évidemment de ce qui se passe à l'international. On apprend aussi du terrain, les remontées des praticiens, la meilleure prise en charge, j'en parlais à l'instant. Et puis évidemment, il faut toujours essayer, et c'est ça qui est un petit peu compliqué dans le débat politique, de concilier des impératifs qui paraissent contraires. La santé des Français, l'activité économique et sociale.
Mais est-ce qu'il y a un échec collectif ? On a l'impression que cette deuxième vague n'avait pas été anticipée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire oui ? On s'est trompé, on n'a pas été assez vigilant.
Mais dans ce cas-là, si vous dites ça, vous le dites pour l'ensemble des pays dans le monde, pour l'ensemble des systèmes politiques, pour l'ensemble des procédures, des protocoles. Je veux dire, pas un pays sur le temps long n'a fait pareil. Quand on regarde les chiffres, il y a évidemment d'abord des moments dans lesquels certains pays font mieux, d'autres où ils font moins bien. Pas un pays n'est capable de dire « j'ai eu la stratégie, on parlait des Allemands récemment, j'ai eu la stratégie parfaite face au Covid ». Donc être humble face à un virus qu'on ne maîtrise pas sur le plan scientifique, je pense qu'évidemment il faut faire preuve d'humilité. Et pour autant, quand on est responsable politique, il ne faut pas être entravé dans l'action. Il faut tous les jours prendre des paramètres qui sont parfois un peu contradictoires et essayer de poser les meilleures décisions politiques éclairées par les sachants, par les scientifiques, qui tentent de concilier deux choses d'égale importance, la santé des Français et la préservation de l'activité économique et sociale, parce que vous savez très bien que tout ça est un continuum et que la crise économique et sociale qui se présente devant nous est d'une intensité, à mon avis, assez inédite et qu'il faut, dès à présent, l'amortir, mettre en place ce que le gouvernement a fait, les anticorps, les antidotes, et continuer à avancer
Nicolas Barré,
de la façon la plus rationnelle possible.
Lors de la première vague, on se souvient, on avait vu des TGV médicalisés,
ferait des patients d'une région à l'autre. Est-ce qu'on va voir ça revenir aujourd'hui ou est-ce qu'au fond, ça n'est plus pertinent parce que l'épidémie est partout?
Non, ça fait partie effectivement des dispositifs que nous avons à notre disposition. Il y a déjà eu des transferts qui se sont faits ce matin en région PACA, entre Nice et Cannes de mémoire, pas en train, je crois, mais par la voie routière. Mais le sujet, c'est ce que vous avez dit, M. Barré, c'est que le virus aujourd'hui est partout. Or, à l'époque, lors de la première vague, il y avait vraiment des foyers très forts de contamination du virus dans le Grand Est, dans les Hauts-de-France, et on avait pu faire circuler à la fois chez nos voisins allemands et suisses, et puis aussi dans l'ouest de la France, notamment vers la Bretagne, des patients, parce qu'à ce moment-là, les capacités de réanimation étaient beaucoup moins enkystées, embolisées dans ces territoires. Aujourd'hui, vous le voyez bien, le virus circule partout, à des taux qui sont importants, et on a de mémoire 56 métropoles ou 56 territoires qui sont actuellement sous couvre-feu. En tout cas avec des restrictions qui sont importantes. Donc on a ce moyen à notre disposition, mais il sera certainement moins employé que dans la première vague de ce virus.
Aujourd'hui, un 2/3 des Français sont sous couvre-feu. La question est très simple. Est-ce qu'il y a un plan de reconfinement total sur la table au sein du gouvernement?
D'abord, il y a toutes les hypothèses qui ont été envisagées, puisqu'au moment du déconfinement, sous l'égide d'ailleurs de Jean Castex, qui était à l'époque le monsieur déconfinement du gouvernement, il y a eu à la fois tout le plan de déconfinement que nous avions construit pour faire repartir l'économie en sécurité, les transports en sécurité. Il y avait un énorme travail qui avait été fait à l'école et dans tous les secteurs. Et nous avions envisagé évidemment le reconfinement. Avec la gradation de mesures, allons jusqu'au reconfinement, notamment le reconfinement local. Et donc tout ça est envisagé sur le plan technique et opérationnel. Moi, je pense qu'évidemment, mais comme tout le monde l'a dit, qu'un reconfinement général serait évidemment très coûteux.
Oui, mais est-ce que c'est un scénario
pour
est-ce
la France
que,
et pour les Français
et qu'il faut absolument est un l'éviter. Scénario aujourd'hui.
Mais tous les scénarios par nature sont sur la table. Moi, je considère que on a une petite part dans cette grande affaire. On a une petite part dans notre capacité à faire, à nous protéger, à éviter les contaminations, en appliquant le mieux possible ce que le gouvernement dit en matière sanitaire et le dit à raison. Pour le coup, les gestes barrières. L'ensemble de la communauté scientifique le dit, sont efficaces dès lors qu'on les respecte.
Mais le Premier ministre a été très clair. Il a dit si ça ne suffit pas, il faudra prendre des décisions beaucoup plus compliquées. Donc, au moins des reconfinements locaux. Ça vous paraît plausible, Jean-Baptiste Djebbari?
Moi, vous savez, j'essaie d'être rationnel et assez froid sur la question. Chaque semaine, nous avons un conseil de défense et de sécurité nationale. Chaque semaine, nous regardons les données épidémiologiques. Nous regardons ce que font nos voisins. Nous regardons là où circule le virus. Et ce que le président de la République a demandé a raison, c'est d'essayer d'avoir les mesures les plus efficaces au niveau le plus pertinent et le plus fin. Autrement dit, cibler les activités particulières qui posent problème, les lieux où se développent particulièrement les contaminations. C'est ça que nous essayons de faire en préservant l'activité économique et sociale, parce que je l'ai dit, c'est
et en préservant peut-être certaines périodes, on le sait, les vacances scolaires sont des temps particuliers, la période de Noël aussi, donc peut-être faut-il agir en prévision, par anticipation.
C'est ce que nous faisons depuis le départ, si je puis dire. Nous regardons effectivement la façon dont circule le virus. Nous essayons de poser les restrictions les plus utiles, mais qui permettent quand même aux Français d'aller travailler, d'avoir une vie économique, sociale, culturelle, de continuer à vivre. C'est vraiment, je crois, que ce que le président de la République avait énoncé très clairement, essayer d'apprendre à vivre avec le virus sur un temps long et essayer d'être moins dans ces soubresauts, mais beaucoup plus dans des protocoles de temps long qui nous permettent de concilier activité et protection sanitaire. C'est ça que nous essayons de faire. C'est forcément imparfait. Il faut à la fois se dire qu'on aura tout le temps, après, de faire tout le bilan politique, sanitaire, de ce qui aura été mis en œuvre. Il faut aussi que nous apprenions en temps réel. C'est ce que nous essayons de faire, croyez-moi, chaque semaine, pour adapter les protocoles quand c'est nécessaire, en lien avec ceux qui, aujourd'hui, nous aident beaucoup, c'est-à-dire les élus locaux dans les territoires, pour adapter les dispositifs au plus près de la réalité.
Damien Fleureau de CNews parlait de Noël. On peut prendre le train à Noël? Là, vous nous dites qu'en ce dimanche, on peut réserver nos billets, il y aura des trains, on pourra rouler.
Je peux vous dire ce que les Français font depuis le déconfinement. Les Français, ils attendent pour prendre le train. 60% des billets ont été pris dans les 7 derniers jours à l'occasion des grandes vacances. Donc les Français, ils attendent. Ils sont comme tout le monde dans l'incertitude, dans une forme d'anxiété, d'inquiétude probablement. Et donc, ils attendent. Il n'y a pas de risque à prendre un billet, pour répondre très clairement à votre question, puisque ces billets, par nature, et la SNCF et les autres opérateurs l'ont annoncé, ils sont remboursables, sans frais, jusqu'au dernier moment.
Il y a peut-être un risque à prendre le train. Est-ce qu'on sait si les transports sont des clusters, des foyers épidémiques? Il y a beaucoup de choses qui sont racontées, et finalement, on ne sait pas grand-chose.
Moi, je vais vous dire, je pense que vous avez raison sur les deux points. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a beaucoup de choses qui sont racontées, et quand on regarde ce que dit Santé publique France, par exemple, c'est assez conforme à ce que disent nos voisins aux États-Unis, en Angleterre.
C'est-à-dire
j'y arrive, au Japon et ailleurs. D'ailleurs, quels que soient finalement les systèmes politiques, qu'ils soient autoritaires, beaucoup de contrôle social ou pas, ce qu'on nous dit, c'est que ce que Santé publique France regarde dans les clusters, c'est qu'en gros, un quart des clusters sont plutôt détectés dans les entreprises publiques et privées et que moins d'1% des clusters sont détectés dans les transports en commun. Cela étant dit, et ça c'est vérifié un peu partout dans le monde et de façon continue chaque mois, puisque chaque mois Santé publique France émet son bulletin. Cela dit, c'est vrai qu'on ne sait pas totalement retracer les parcours individuels et on a du mal, et ça il faut objectivement le dire et le reconnaître, tant qu'on n'a pas d'outils de tracing très performants, et c'est la raison pour laquelle l'application Tous Anti-Covid a un intérêt assez majeur, tant qu'on ne sait pas tracer individuellement les flux, on aura du mal à cartographier précisément les lieux dans lesquels il se propage, elle se propage, ces contaminations. Donc c'est un travail, encore une fois, qui est collectif et qui appelle à la volonté et à l'engagement de chacun. Et de ce point de vue-là, les messages du gouvernement ont été clairs.
Comment est-ce que vous comptez aider les opérateurs de transport dans ce contexte? Parce qu'on voit qu'effectivement, les flux dont vous parlez sont beaucoup moins importants qu'en temps normal.
Mais d'abord, nous aidons les opérateurs de transport en commun massivement. Je rappelle que la SNCF a bénéficié d'un plan de soutien de 4,1 milliards d'euros, ce qui est inédit dans l'histoire, en plus des 35 milliards de reprise de dette, en plus de tout ce que le gouvernement a fait depuis le début du quinquennat. Mais donc les aides sont massives. Je rappelle que s'agissant par exemple de la région Île-de-France, nous avons conclu un protocole avec Mme Pécresse pour l'aider à soutenir les transports en commun, puisqu'elle est finalement aujourd'hui celle qui les organise. Nous avons mis en place un protocole qui l'aide à hauteur de plusieurs milliards d'euros pendant les prochains mois. Nous aurons à avoir une discussion très sérieuse avec les régions, je le dis sur le sujet, je l'aurais dit en direct, parce que si nous observons sur un temps long un décrochage, comme c'est le cas maintenant, de la fréquentation des transports en commun, nous aurons un problème de modèle économique des transports en commun. Pour être très clair, aujourd'hui, nous avons 60% de fréquentation dans le métro parisien, 40% de moins que l'année passée. Ça promet d'être assez durable. C'est évidemment des sommes qui sont colossales. Et donc, il faudra, si tout cela perdure, y compris par des effets structurels, le recours au télétravail, une forme de démétropolisation, les gens ont peut-être envie, et on le voit dans l'immobilier, d'aller vivre un peu ailleurs, en dehors de Paris. Il faudra avoir cette discussion rationnelle, froide, lucide, avec ceux qui aujourd'hui organisent les transports en région, parce que ce sont des volumes considérables. Et puis, c'est quand même le cœur de la vie et du quotidien des déplacements des Français. Ces sujets sont importants.
Eh bien, on va continuer à parler du déplacement des Français dans la suite de ce grand rendez-vous. Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué au transport, est notre invité aujourd'hui.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Emmanuel Dutheil.
Merci d'être avec nous en ce dimanche et avec Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué en charge des transports.
Oui, Jean-Baptiste Djebbari, depuis la mi-septembre, dans certains pays, notamment en Italie, on fait des tests rapides antigéniques dans les aéroports. Chez nous, il est question de les faire à partir peut-être de demain. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous confirmer qu'ils seront disponibles dès demain?
Alors, on a toujours un travail en cours en interministériel pour bien préciser le cadre dans lequel nous agissons. Mais l'idée, c'est bien le plus tôt possible, soit demain ou après-demain, de mettre en place...
C'est-à-dire dans la semaine. Ouais. Ce que vous pouvez nous assurer, c'est que ce sera en place dans la semaine.
Alors d'abord, pourquoi on essaie de faire ça? Effectivement, pour deux raisons. D'abord, remettre de la fluidité dans les déplacements. Et nos voisins ont commencé à le faire. C'est le cas en Allemagne,
c'est le cas en
Italie.
Et pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt? Ça existe ailleurs depuis longtemps?
Je vais répondre à toutes les questions en même temps. On essaie de le faire sur... Donc, de remettre de la fluidité et de la sécurité sanitaire. On veut le faire notamment pour nos outre-mer, évidemment, sur les flux d'affaires les plus empruntés, notamment les États-Unis et quelques autres. On ne sait le faire correctement que quand on a suffisamment de tests antigéniques. On a envie de le déployer rapidement à Orly, enfin, sur les aéroports parisiens. Christian Estrosi m'a appelé la semaine dernière et veut que nous le développions également à Nice. Marseille est également volontaire. Donc nous essayons de le faire pour le plus grand nombre d'aéroports qui le demandent, mais dans des bonnes conditions. L'idée, c'est d'avoir suffisamment de tests, d'avoir les personnels, d'avoir les bons accords avec les laboratoires, par exemple. Et typiquement, les sujets que nous évoquons en ce moment, encore ce matin, avec le patron d'ADP, c'était de savoir comment on arrivait à conventionner avec les laboratoires. Il y a aussi des sujets de paiement, qui paye et combien. Donc tout ça étant...
Mais soyons très clairs, vous voulez que ces tests rapides, on a le résultat en 30 minutes, soient disponibles cette semaine dans les aéroports que vous avez cités?
Et d'ailleurs, le président de la République n'a pas dit autre chose il y a quelques jours maintenant.
On sait que parfois, quand on nous annonce des dates de test, il faut attendre un petit peu plus longtemps.
Qu'après, effectivement, le diable est dans le détail et que de savoir la quote-part du remboursement de la sécurité sociale, c'est important. De savoir quels sont les laboratoires partenaires et conventionnés autour des aéroports, c'est important. C'est un travail qui se fait en lien avec les ARS. Donc, vous voyez, tout ça s'organise. L'idée, c'est quand même d'avoir un système qui soit robuste pour qu'on n'ait pas des personnes qui arrivent dans les aéroports et qui se trouvent dépourvues ou qui n'aient pas accès au bon test, avec la bonne qualité de service. Donc ce sont des sujets sérieux que nous essayons de traiter sérieusement et le plus rapidement possible.
Voilà, avec cette information que ce sera véritablement disponible logiquement cette semaine. Alors c'était vendredi matin sur Europe 1, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui lui se dit très inquiet pour la fin de l'année.
Au quatrième trimestre, nous aurons probablement un chiffre de croissance négatif. Je vous dis qu'il y aura un fort rebond de l'économie française en 2021 et que nous pourrons retrouver en 2022 notre chiffre de développement économique de 2019.
Alors on l'entend, ça va aller mal pendant longtemps. Et si ça va mal pendant longtemps, c'est-à-dire qu'on ne va pas voyager, notamment dans les avions pendant longtemps. On a une compagnie, encore quasi nationale pourrait-on dire, Air France. Est-ce que vous allez monter au capital pour leur apporter de l'argent ?
Bon, d'abord, il y a plusieurs sujets. Ce qu'évoque l'ensemble des pays, ce qui a été repris par Bruno Le Maire, le président de la République, c'est de se dire que tant qu'on n'a pas des traitements efficaces ou un vaccin, ou une première génération de vaccin qui est satisfaisant, on a effectivement des freins structurels au déplacement, au transport et au voyage. On semble s'acheminer vers des premières générations de vaccins qui vont être disponibles entre le premier et le deuxième semestre 2021. Donc, de toute évidence, les transports, les flux de déplacement vont être entravés jusque là. Nous ne retrouverons pas leur niveau d'avant-crise. Et par ailleurs, il y a un sujet aussi de contexte. On voit bien que le tourisme tel qu'il a été pratiqué est questionné. On voit bien que pour les affaires, le télétravail devient une réalité et qu'on peut s'attendre à ce que notamment l'aérien reparte avec un peu moins de dynamisme que ce qui était prévu jusqu'à présent. Donc nous avons soutenu Air France KLM et du reste l'ensemble des autres compagnies aériennes qui ont pu bénéficier de soutien étatique. Il y aura très certainement une recomposition du secteur de l'aérien parce que beaucoup de compagnies vont mal, parce que l'industrie est en difficulté. Il faudra évidemment à ce moment-là regarder ce que font les uns et les autres. Est-ce qu'il y a une consolidation du marché? Est-ce qu'Air France KLM a vocation à y
participer?
Vous
semblez un peu fataliste là, Jean-Baptiste Djebari. Il y aura nécessairement une recomposition. Est-ce qu'il n'est pas temps d'être à l'offensive et de peut-être l'anticiper?
Nous sommes à l'offensive quand nous soutenons l'ensemble du secteur de transport de plusieurs milliards d'euros. Je rappelle qu'Air France KLM, cumulé entre les Néerlandais et nous, c'est 10 milliards d'euros.
À soutenir la compagnie.
Mais parce que c'est un actif stratégique, parce que l'État a évidemment vocation à avoir dans son portefeuille une très grande compagnie aérienne d'envergure mondiale, et que oui, je ne suis pas fataliste, au contraire, moi j'essaie d'être dans la vitalité, pas dans la fatalité, mais ce que je constate, parce que je connais bien ce secteur et pas que celui-ci, c'est qu'effectivement, beaucoup de compagnies vont mal, et il y a évidemment des compagnies qui vont avoir des problèmes de trésorerie, les voyageurs vont mettre du temps à venir, et on voit bien que tout ça aura des conséquences et des impacts.
La nationalisation, c'est une option ?
Bah, c'est une option technique, si vous voulez, le temps 2, mais il faut avoir un projet, il faut avoir une stratégie. Nationaliser simplement pour soutenir l'entreprise, c'est une chose. Techniquement, effectivement, rentrer dans une ouverture de capital, c'est une solution de court terme. La réalité, c'est que la question qui doit se poser maintenant, c'est que dans le contexte aérien que nous allons connaître, avec un monde de l'exploitation très, très chamboulé, la façon dont nous consommons en quelque sorte du voyage très, très heurté, percuté par cette nouvelle réalité, quel doit être le modèle économique d'Air France KLM, comment l'entreprise doit se développer, quels besoins en trésorerie, en cash, et donc quel rôle de l'État. C'est des questions qu'on doit prendre dans cet ordre-là, et pas par la conclusion.
Pour le moment, Air France a annoncé, si je peux dire, seulement un plan de départ volontaire. La quasi-totalité des grandes compagnies dans le monde ont sabré de façon souvent très drastique dans les effectifs. Est-ce qu'il faut aller plus loin chez Air France ?
Mais d'abord, c'est la culture française, et je crois que c'est une bonne culture, que de ne pas être dans des coupes très rapide, très massive, très franche. On l'a vu, hein, ça a fait plusieurs dizaines de millions de chômeurs aux États-Unis. Ça a fait effectivement dans les compagnies aériennes plusieurs dizaines de milliers de départs. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que les compétences dans les secteurs des transports, c'est vrai dans l'aéronautique comme dans le ferroviaire, sont des compétences rares. Il faut les maintenir le plus longtemps possible. Les coupes dont vous parlez, ou en tout cas les plans d'économie chez Air France KLM, ils sont d'une ampleur considérable. Airbus, c'est pareil. Donc cette industrie souffre énormément. Nous avons tenté de faire le moins de départs contraints et donc évidemment d'avoir recours à des départs anticipés, à des départs volontaires, à des mobilités intragroupes. C'est une bonne façon, en tout cas c'est la façon française de gérer la crise. Elle me paraît être, comment dirais-je, soucieuse des hommes, des femmes, et elle me paraît procéder d'une façon française d'aborder la crise, d'amortir ses effets et de repartir de l'avant que je trouve positive.
Vous évoquiez le ferroviaire. Plus aucune ligne TGV aujourd'hui n'est rentable. Or, c'est tout l'équilibre économique de la SNCF qui repose sur le TGV. Est-ce qu'il va falloir fermer des lignes ?
Mais d'abord, peu de lignes, si on parle de rentabilité, peu de lignes de TGV sont rentables au sens comptable du terme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a une chute de la fréquentation dans le TGV comme dans l'aérien. D'ailleurs, pour les mêmes clients, les voyageurs d'affaires prennent globalement moins le TGV. Et donc, il n'y a pas de sujet de fermeture de ligne. Il y a peut-être des sujets à un moment d'adapter des fréquences quand sur tel ou tel trajet, vous avez beaucoup de TGV. Mais je le dis, le fait que justement l'aérien soit en difficulté, que les clients assez naturellement se reportent sur le TGV, ça a été le cas entre Bordeaux et Paris, entre Strasbourg et Paris, donne plutôt au ferroviaire et notamment au TGV un avantage comparatif qui est important. Donc il y a plutôt une belle décennie qui s'ouvre pour le ferroviaire. Dès lors que nous aurons trouvé un vaccin ou que nous aurons des traitements qui fonctionnent bien, moi je ne doute pas que pour le coup le ferroviaire aura le vent en poupe.
Jean-Baptiste Dubarry, on a l'impression que parfois ce que vous donnez d'une main, vous le reprenez de l'autre. C'est vrai par exemple pour le secteur de l'automobile, vous soutenez le secteur avec des mesures de chômage partiel, des prêts garantis, puis à la fois on apprend qu'il y a cette instauration d'un malus automobile au poids voulu par la Convention climat qui va pénaliser fortement ce secteur d'activité. Est-ce que ce n'est pas contre-productif cette façon d'avancer?
Je suis assez en désaccord avec ce que vous dites pour deux raisons. D'abord, nous avons eu un plan de soutien sectoriel qui a été très important, rappelez-vous, notamment pour Renault, 5 milliards.
Effectivement.
Dans le plan de relance, nous remettons 2 milliards supplémentaires pour les véhicules les plus propres. Donc vraiment dans cette conciliation de la transition énergétique du secteur et de l'accompagnement de nos, notamment de nos constructeurs et de l'industrie automobile française. Et donc oui, nous choisissons, notamment pour les véhicules les plus polluants, ceux qui ne sont pas favorisés ou que nous n'avons pas vocation à favoriser dans le cadre de la politique environnementale que nous menons, nous mettons les curseurs là où ils nous paraissent les plus progressifs et les plus efficaces. C'est ça que nous faisons. Alors évidemment, ça porte toujours le flanc à la critique, mais je crois vraiment que sur le secteur automobile, comme sur l'aviation, nous avons en matière de transition énergétique une politique qui d'ailleurs marche, parce que par exemple pour les véhicules électriques, nous serons à l'objectif des 100 000 véhicules vendus. Nous avons aujourd'hui une offre des constructeurs qui est très solide, et nous avons des consommateurs qui achètent, avec des primes qui aujourd'hui permettent de financer plusieurs dizaines de milliers d'euros. Nous accompagnons les plus faibles, les plus modestes, les moins aisés d'entre nous, qui avaient toujours du mal à payer les 2000, 3000, 4000 euros, en mettant des primes sur les marchés de l'occasion, en augmentant les primes pour les véhicules les plus propres et pour les ménages les moins aisés. Je crois que nous avons vraiment une politique cohérente. Je serais ravi d'en parler 4 ou 5 heures avec vous. Mais
est-ce que dans cette cohérence, c'était logique de baisser le bonus de 1000 euros pour l'achat de voitures électriques? Vous l'avez augmenté, vous en avez créé un pour les voitures d'occasion. Mais est-ce qu'il ne fallait pas garder des soutiens plus forts, justement pour accélérer, comme vous le dites, la transition écologique?
Le bonus, il avait eu un super bonus, en quelque sorte, pour le plan de soutien au secteur en juin, qui était monté jusqu'à 7 000 euros, qu'on pouvait cumuler avec différents dispositifs de 5 000 euros. Et ça, c'était pour faire repartir le marché automobile, ce que nous avions réussi à faire. Et là, maintenant, le bonus est maintenu à un niveau très élevé, plus élevé que dans la période précédente. Nous ajoutons 1 000 euros pour les véhicules d'occasion, 1 000 euros pour les DOM, et tout ça en ciblant les ménages les moins aisés, ce qui nous permet d'avoir, je crois, là, un plan sur la durée qui est tout à fait satisfaisant. Donc, l'État répond bien présent, je le redis, c'est 2 milliards d'euros qui est inscrit dans le plan de relance en soutien de la filière automobile.
Vous restez avec nous, hein, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué en charge des transports. On va parler des conséquences de l'acte islamiste et de l'attentat de la semaine dernière dans les transports, mais plus largement, quelle va être la réponse de la République? C'est à suivre.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Emmanuel Dutheil.
Et notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué en charge des transports. On va en venir maintenant aux conséquences et surtout aux décisions qui vont peut-être être prises après l'attentat islamiste de Conflans-Sainte-Honorine de vendredi dernier. Pour le moment, l'enquête avance, comme le confiait récemment le Premier ministre Jean Castex.
123 visites domiciliaires ont été décidées et 56 d'ores et déjà réalisées. 1279 signalements à la plateforme Pharos, service spécialisé chargé du recueil des signalements illicites sur Internet, ont permis 27 interpellations.
Jean-Baptiste Djebbari, depuis plusieurs années, des alertes ont été lancées dans l'éducation nationale face à la montée de ces incidents dans les établissements scolaires. Dans votre domaine, les transports, là aussi, on a des remontées, des alertes. Qu'allez-vous faire, notamment dans le cadre du projet de loi qui sera présenté d'ici la fin de l'année?
Deux choses. Mais d'abord, peut-être sur un plan général, simplement pour me référer à mon expérience personnelle. Moi, ça fait depuis 48 heures et pour la première fois que je me mets à signaler, parce qu'on reçoit évidemment, quand on est responsable politique, des tombereaux de messages d'insultes, parfois à caractère religieux, parfois évidemment sous d'autres angles. Mais c'est la première fois que j'ai commencé à signaler auprès des plateformes, Instagram ou d'autres, parce que vous pouvez le faire et je ne savais même pas qu'on pouvait le faire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, il y a aussi culturellement des habitudes à prendre.
Et vous appelez tous, chacun
d'entre
nous.
Je pense qu'il faut aussi se dire qu'on n'a pas vocation, quand on est responsable politique ou quand on est étudiant ou quand on est un citoyen français à se faire insulter sur les réseaux sociaux et avoir intériorisé cette contrainte. Moi, je le dis, pendant longtemps, je pense que j'ai intériorisé le fait que quand on était un responsable politique, on pouvait se faire insulter. Ça faisait partie des commentaires qu'on ne lisait pas, mais qui étaient finalement un état de fait. Maintenant, en fait, c'est insupportable. Il faut donc signaler tout le temps et tant que faire se peut. Donc, je m'astreins à cette forme de discipline nouvelle. Sur les sujets de la RATP et de la SNCF, d'abord, il y a deux sujets que je distingue. Il y a les sujets des atteintes à la laïcité et puis les sujets de lutte contre la radicalisation. Sur les sujets d'atteinte à la laïcité, il y en a eu des événements, plus ou moins d'ailleurs récents, à la SNCF, à la RATP, des refus de serrer la main à des personnes, des personnes qui ont été détectées en train de prier individuellement ou collectivement. Il y a eu à chaque fois des recadrages par les managements, les directions. Parfois, quand c'était insuffisant, des avertissements, des sanctions. Et puis parfois, les choses sont allées, du fait du comportement de ces personnes, jusqu'au licenciement. Donc il y a une tolérance zéro qui est aujourd'hui menée, notamment par les directions de la SNCF et de la RATP.
Il y a vraiment une tolérance zéro, parce qu'on a l'impression quand même qu'un certain nombre de ces incidents continuent.
D'abord parce que c'est un fait qui est connu depuis de nombreuses années, sur lesquelles les managers ont été formés, sur lesquelles voilà, les réponses ont été...
Quand vous dites tolérance zéro, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous avez le moindre acte signalé, vous en avez donc eu récemment, pour dire que maintenant vous êtes à la tolérance zéro, juste pour qu'on comprenne bien.
Deux choses. D'abord, culturellement, ces entreprises, notamment la RATP, ont appréhendé ces événements il y a plusieurs années. Et donc, au gré des lois, des dispositifs d'entreprise, ils ont mis en place en quelque sorte des pare-feux à chaque fois, en ayant des cadres qui sont formés à ces sujets-là, en ayant toujours une première discussion, une deuxième discussion, et en gradant finalement, procédant à une gradation des mesures qui peuvent aller jusqu'au licenciement. L'idée étant évidemment de faire revenir ces individus, ces agents, dans le champ de la neutralité dans le cadre du service public.
Est-ce qu'il y a eu déjà des licenciements pour radicalisation islamiste ?
Il y a eu des licenciements du fait de comportements qui étaient incompatibles avec les principes de la laïcité. Et il y en aura d'autres. Et d'ailleurs, dans la loi sur les séparatismes qui va être débattue en décembre prochain, nous allons faire en sorte que le principe de laïcité qui s'applique aujourd'hui pour les acteurs publics, la SNCF, la RATP, s'applique à tous les prestataires de transport public et privé dès lors qu'ils opèrent pour le compte d'un acteur public.
Donc les salariés de droit privé aujourd'hui absolument seront répondre
des mêmes prérogatives, des mêmes devoirs dus au principe de laïcité. Puis après, il y a un deuxième sujet, le sujet de la radicalisation et de la détection de personnes radicalisées dans ces entreprises et ailleurs. Ce sujet, il est pris extrêmement sérieusement. Et vous savez que depuis 2017, il y a possibilité de ce qu'on appelle cribler, donc de cribler, d'interroger les fichiers quand vous embauchez quelqu'un ou quand quelqu'un demande à être positionné sur un poste sensible. C'est ce que fait la RATP depuis 2017 de façon systématique. Et pour être précis, sur les chiffres, sur les 10 800 dossiers qu'elle a transmis au ministère de l'Intérieur pour analyse, il y a eu 200 avis négatifs.
Donc 200 personnes. 2% des cas posent problème.
À peu près 2% des cas, en tout cas pour le recrutement ou le changement de poste, se sont vus recevoir un avis négatif et n'ont donc pas été embauchés ou n'ont pas été mutés ou promus vers d'autres postes. Donc il y a une très grande responsabilité des entreprises publiques, et je veux le dire ici, tous les jours, quasiment tous les jours, mes services échangent avec la RATP, avec la SNCF, et nous renforcerons encore le cadre de la loi pour avoir d'autres outils, notamment pour les entreprises de transport privé qui vivent dans la même société, qui nous sont donc soumis évidemment aux mêmes atteintes, le cas échéant.
Alors justement, dans un entretien au Parisien, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, vous demande d'aller plus loin et d'autoriser, par exemple, la reconnaissance faciale sur le réseau d'Île-de-France pour mieux lutter contre la menace terroriste. Qu'est-ce que vous répondez à cette suggestion? Elle demande la reconnaissance faciale et puis d'utiliser aussi les techniques d'intelligence artificielle pour mieux cerner ces menaces.
Moi, je suis assez favorable à ça. Elle propose un comité d'éthique. Le vrai sujet, c'est de savoir...
Donc vous dites oui.
Non, mais d'abord, on l'a fait pendant le début du Covid. Vous savez, on a pu détecter le nombre de personnes qui portaient le masque, par exemple. C'est comme ça qu'on a pu savoir qu'on avait 95% des personnes, des usagers du transport qui portaient bien le masque. Une start-up française d'ailleurs qui l'avait fait, et ça nous a beaucoup aidé. Et après, tout ça doit être concilié avec la liberté individuelle. Donc, il faut agir plus vite.
Là, on passe un cap, parce qu'on recherche des personnes.
On recherche des comportements, pas des personnes, on recherche des comportements. L'idée d'utiliser l'intelligence artificielle et d'autres modes, c'est de détecter des comportements suspects. Des personnes qui laissent un bagage abandonné, des personnes qui se comportent, parce que maintenant, on sait assez bien le faire, assez bien le mettre en œuvre, qui se comportent de façon suspecte. Ça s'est mis en place dans beaucoup de pays. On a un droit français qui, fort heureusement, est protecteur. Donc l'idée de mettre en place un comité d'éthique ou de trouver une enceinte de discussion avec Mme Pécresse pour se dire comment on utilise le plus efficacement possible les nouvelles technologies et comment, évidemment, on concilie tout ça avec les libertés individuelles qui, en France, sont de rang constitutionnel et c'est heureux, c'est un chemin qui me paraît tout à fait normal.
La reconnaissance faciale, on voit bien que ça va plus loin quand même, parce qu'on confronte par rapport à un fichier qu'on a de personnes suspectes, fichier-là aux passagers. Donc,
moi, je parle de toutes les techniques. Je parle de toutes les techniques qui permettent d'appréhender les comportements suspects. Et je ne sais pas si la reconnaissance faciale est la technique qui permet le mieux de déceler des comportements suspects. En tout cas, je sais que la plupart des pays qui sont en avance sur le sujet, États-Unis, Israël, s'appuient beaucoup sur l'intelligence artificielle pour détecter les comportements qui sont anormaux. Et après, vous avez des agents sur le terrain. Fort heureusement, partout dans les gares, vous avez entre la SNCF et la RATP plus de 4000 agents de sûreté qui s'occupent évidemment du maintien de l'ordre public, du bon ordre dans les stations et les systèmes de transport. Vous avez évidemment beaucoup de policiers qui ont été mobilisés et qui seront à nouveau mobilisés le cas échéant. Et donc, c'est un continuum de sécurité. Mais moi, je suis tout à fait prêt à avancer avec Mme Pécresse sur ces sujets, de mettre en place effectivement une instance d'éthique pour regarder ce qu'il est possible de faire au regard du droit français et ce qu'il est loisible de faire très rapidement, parce qu'effectivement, le sujet, c'est la sécurité dans les transports en commun. Et ce n'est pas un petit sujet. On parlait de la ligne 13 il y a encore quelques jours. Il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment en Île-de-France, pour les personnes qui prennent les transports en commun. C'est encore plus le cas pour les femmes qui craignent les agressions sexuelles et qui sont confrontées aujourd'hui en plus
là,
à l'anxiété.
C'est du constat ce que vous faites. La réponse, c'est laquelle là maintenant?
La réponse, je dis peut-être que ce n'est pas assez connu, mais depuis juillet, nous avons mis en place un comité, en tout cas réactivé un comité avec Gérald Darmanin que nous copilotons sur la sécurité dans les transports, notamment du fait de l'accident de Bayonne. Nous allons beaucoup plus loin sur la vidéosurveillance. Nous mettons là où c'est le plus compliqué, plus de moyens, plus de forces de l'ordre.
Et depuis que vous le faites, vous avez l'impression que c'est efficace? C'est quoi les premiers retours
de sécurité privée? On a mis ça en place en juillet.
Oui, bon, on avait fait en octobre.
On va faire une première séance de restitution d'ici à fin décembre, de manière à voir effectivement l'efficacité, puis nous ajusterons.
Vous n'avez pas l'impression, Jean-Baptiste Djebari, d'être parfois un peu en retard d'un train? On parle du secteur des transports. Vous parliez du phénomène de radicalisation dans les services publics. Il y a eu ce rapport de parlementaires Éric Diard, Éric Pouya, qui est membre de la majorité présidentielle. Et on a l'impression que c'est depuis ce rapport que le sujet est venu à la table de l'ordre du jour de l'exécutif.
Ce rapport, il a été utile. Il va être exploité notamment dans le cadre de la loi sur les séparatismes. Mais d'autres rapports avaient fait ces constats il y a longtemps. Des lois ont été prises. La loi Savary en 2016 a permis d'avoir de nombreuses avancées. Nous avons voté une loi sur les mobilités
elle
n'est pas pleinement déclinée. Il y a notamment le sujet effectivement du fichier des contrevenants. C'est un vrai sujet.
Et pour quelle raison, justement, cette loi votée en 2016, sans décret?
D'abord, les décrets mettent toujours beaucoup de temps en France.
Non, mais là, ça fait 4 ans.
On sait à quel point parfois l'exécutif rapidement.
On aurait dû avancer plus rapidement. C'est un sujet que nous avons relevé avec Gérald Darmanin en juillet dernier dans ce fameux comité. Nous avons mandaté les entités concernées pour savoir où devait être logé ce fichier. Nous avons maintenant une bonne idée de comment cela peut se pratiquer et être mis en œuvre. Mais vous avez raison. Ces décrets, ils ont vocation à être pris d'ici à la fin de l'année, puisque nous travaillons pour avoir une réponse d'ici à la fin de l'année. Mais vous avez raison de dire que, parce que l'État français est très protecteur, notamment des droits individuels, il y a beaucoup de procédures, et que parfois ça nous fait probablement prendre un peu de retard, prendre moins de risques juridiques et avoir des textes plus robustes, mais ça nous fait peut-être prendre un peu de retard face à une menace qui, elle, est extrêmement dynamique et active.
Là, vous dites, on aurait dû aller plus vite sur ce point très précis, mais est-ce que globalement...
Parce que comme moi, je trouve ça politique, parfois je suis aussi frustré.
Mais est-ce que globalement, le gouvernement n'a pas raté au démarrage, à son arrivée, ce sujet de l'islamisme? C'est-à-dire, est-ce que le président de la République n'a pas laissé ça un peu de côté et aujourd'hui, vous êtes pris à rebours parce que vous n'avez pas fait grand-chose?
Non, moi je pense que ce qui s'est passé sur ce sujet de l'islam politique...
Parce qu'on voit que la société demande aujourd'hui.
Il y a eu certainement dans l'espace politique à la fois une forme de déni, notamment de la gauche, de l'extrême gauche, qui n'a pas voulu voir un islam politique organisé, alors même que vous aviez depuis 2013-2014 un État islamique en Irak et en Syrie. C'était peut-être trop loin de chez nous pour qu'on s'aperçoive que l'islam politique prosélyte, organisé, financé, était à l'œuvre partout dans le monde, mais notamment sur notre territoire. Il y a eu ce déni-là, cet aveuglement-là. On a beaucoup expliqué ce qui est vrai par ailleurs, la dimension sociale, les politiques de peuplement, la ghettoisation. On a beaucoup expliqué ça, mais ça a masqué finalement une frange de l'islam, qui d'ailleurs dévoie l'islam, et qui est prosélyte et a vocation à prendre le pouvoir. Mmh. Et puis de l'autre côté, il y a eu, et c'est peut-être pour ça que tout ça n'a jamais vraiment rebouclé, il y a eu Marine Le Pen qui en fait a essayé de faire prospérer dans l'espace public, que l'islamisme et l'islam, c'était la même chose, que le djihadisme et les musulmans, c'était un continuum, et qui a appauvri le débat, et qui l'a rendu simpliste, et qui a fait du rejet et du refus de l'immigration sa solution à tous les problèmes. Devant ce discours pauvre de part et d'autre, un discours rationnel et quelque part volontaire n'a peut-être pas assez prospéré. Et moi, je le dis parce que sur l'islam radical, je pense que les choses maintenant sont engagées. Et d'ailleurs, depuis de nombreux mois, avec les travaux, des instituts de la police, évidemment de la justice. Mais il y a un autre sujet qui est plus inquiétant. C'est le sujet de ces territoires où des populations se sont installées dans une forme de contre-culture. Défiance du politique, expérience réelle de l'inégalité des chances, de la discrimination. Et ça, c'est vraiment du temps long, parce qu'il y a des générations qui ne croient plus en la politique, en la République, qui ont vu réellement leur situation se dégrader, qui sont peut-être poreux à ces initiatives visant à installer un islam politique. Et c'est ces générations-là qu'il faut reconquérir par l'école, par la mixité sociale, par le creuset républicain.
Et on va continuer à parler de tout ça. Un grand merci, Jean-Baptiste Djebari. Vous restez avec nous, ministre délégué en charge des transports.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Emmanuel Dutheil.
Et en ce dimanche, on est avec Jean-Baptiste Djebari, le ministre délégué en charge des transports. Alors, un autre ministre était cette semaine sur l'antenne d'Europe 1, c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Et il a dénoncé de façon virulente ce qu'il appelle l'islamo-gauchisme.
Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université, il fait des ravages quand une organisation comme l'UNEF cède à ce type de choses. Il fait des ravages quand dans les rangs de la France insoumise, vous avez des gens qui sont tout simplement de ce courant-là et s'affichent comme tels. Et donc tout simplement favorise une idéologie qui ensuite, de loin en loin, mène évidemment au pire.
Jean-Baptiste Djebari, quand Jean-Michel Blanquer tient ce type de propos, eh bien cela provoque une réaction vive des présidents d'université. Est-ce qu'ils se trompent? Est-ce qu'ils sont dans le déni? Ou est-ce que votre collègue du gouvernement va trop loin, caricature la situation? Il a un peu atténué son propos ce matin dans le journal du dimanche.
Non, mais d'abord, Jean-Michel Blanquer, sur tous ces sujets, n'a jamais varié. Depuis 2017, il dit constamment la même chose. Il a des convictions extraordinairement ancrées sur ces sujets. Et on doit lui reconnaître le mérite de la constance. Ce n'est pas forcément le cas de tous les hommes politiques, notamment à l'extrême gauche. Et on voit que Jean-Luc Mélenchon, après avoir tout
excusé... Mais à l'université, il y a véritablement un courant qui gangrène certaines universités.
Il y a un déni dans la classe politique, un déni dans une frange de la société qui n'a pas voulu voir qu'il y avait un islam politique, organisé, prosélyte, qui veut le pouvoir et qui essaye partout où c'est possible de convertir les esprits, notamment à l'université et ailleurs, et qui a ses fidèles, ses militants, ses défenseurs. Je pense qu'il a raison de faire cette analyse politique-là, qui évidemment, c'est un peu brutal, mais que parfois la réalité cogne, comme disait le philosophe, et qu'en la matière, Jean-Michel Blanquer, sur ce constat qu'il fait depuis de nombreuses années et qu'il vit, je crois, très organiquement au sein de l'éducation nationale et qui est très habité par ce sujet-là, pose un constat lucide.
Alors ce débat effectivement est un peu brutal. On a vu le mot collabo tagué sur le siège devant le siège du Parti communiste. Jean-Luc Mélenchon réplique en disant c'est une écœurante agression. Ce sont des appels au lynchage de la gauche.
Collabo sur les murs du Parti communiste français, c'est vraiment ne pas reconnaître l'histoire et l'œuvre du Parti communiste français, notamment à l'occasion de la résistance. Et Dieu sait qu'ils ont joué un rôle éminent, et c'est l'œuvre commise, cette œuvre, elle est commise par des crétins doublés d'inculte, pour le dire comme ça. Sincèrement, personne ne peut aujourd'hui tenir ces paroles-là de façon sensée dans l'espace public, et évidemment, ça va être condamné avec la plus grande force.
Mais alors, au-delà de ça, ça veut dire que la gauche doit faire son introspection?
Mais au-delà effectivement de l'acte commis, insupportable, et qui d'ailleurs vient salir l'histoire du Parti communiste français, pour autant, une partie de la gauche et une partie des responsables politiques, et notamment Jean-Luc Mélenchon, qui est passé du tout excuse au tout critique, notamment à l'égard de la communauté, je le mets entre guillemets, tchétchène, on voit bien que les gens, notamment à la France insoumise, se cherchent. Et je vous le dis, ce n'est pas le cas de toute la France insoumise. Vous avez des acteurs comme Adrien Quatennens, qui sont, pour moi, de grands républicains, et qui sont constants et intellectuellement assez impeccables sur ces sujets. Ce n'est pas le cas d'autres membres de la France insoumise que vous connaissez bien. Et ce n'est pas le cas de leur leader, qui est trop variant pour être crédible sur ces sujets.
Mais vous, du côté du gouvernement, de façon très concrète, comment vous comptez apporter une réponse aux Français que l'on voit choqués, outrés, et disons-le, qui en ont
ras-le-bol de ces sujets qui ont l'impression que vous n'avancez pas là-dessus.
J'ai essayé de vous expliquer ce qui est fait, notamment au sein du secteur des transports, avec des entreprises qui sont
mais
mobilisées.
Plus globalement,
je vous ai expliqué plus globalement comment les services de police et de justice travaillaient sur ces sujets avec un renseignement qui s'est beaucoup, ces dernières années, réapproprié le sujet. Et puis je vous dis sur le temps long, j'ai parlé tout à l'heure d'une contre-culture. Il y a effectivement des générations...
Donc, il ne faut pas s'attendre à un nouveau grand plan
de
la loi contre le séparatisme.
Non, mais ce travail, longue haleine. La mixité sociale qui n'existe plus dans certains quartiers et qui fait qu'une nouvelle culture s'est installée, une contre-culture qui en plus n'aime pas le politique, qui n'y croit pas, qui vit les inégalités de chance, qui vit la discrimination au jour le jour et qui sont donc poreux aux théories du complot et à des discours politiques faciles et aussi à l'islam rigoriste et politique, ça va être un travail de temps très long. Ça va se passer à l'école, ça va se passer dans les brassets, dans les creusets républicains, on a le service national universel qui est un élément tout à fait important. Et ça passera aussi par des politiques, à mon sens, d'urbanisme, de mixité sociale, beaucoup plus velléitaires, beaucoup plus volontaires que nous l'avons fait ces 10-15 dernières années.
Jean-Baptiste Djebbari, votre collègue du gouvernement, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, sur BFM TV cette semaine, s'est dit choqué, en quelque sorte, par les rayons halal dans les supermarchés, dans certains supermarchés. Quelle est votre position à ce sujet? On a eu un flottement au sein du gouvernement.
Oui, parce que je pense que le sujet, c'est quand les communautés essayent d'exporter leur confession à l'extérieur de l'espace public, leur confession, leur prosélytisme, essayent de faire en sorte que leurs règles, notamment leurs règles religieuses, prévalent dans l'espace public. Autrement dit, qu'on respecte davantage la charia que les lois de la République. Ça, c'est insupportable. Mais je ne crois pas que le sujet, ce soit que ces communautés mangent cachère ou halal.
Donc, vous-même, vous n'êtes pas choqué quand vous allez faire vos courses?
Je comprends bien ce qu'il veut dire. En tout cas, je crois que ce qu'il veut dire, c'est que parce qu'on a eu des politiques de peuplement, parce qu'on a eu des cultures qui ont changé, vous avez certains quartiers dans lesquels quasiment toutes les boucheries sont halal. Et c'est ça, je crois, qu'il exprime et qu'il dit que quand on a des politiques de peuplement qui ghettoisent, qui fixent des populations, quand on a un islam politique qui a envie de s'attaquer notamment aux plus jeunes, alors cette alchimie est mauvaise. Je crois que c'est ça qu'il a voulu exprimer. Mais la petite, comment dirais-je, le focus ou l'attention, la concentration sur cette phrase, à mon avis, ne me paraît pas...
Oui, enfin, il est ministre de l'Intérieur, il tient ses propos sur une chaîne de télévision, il sait le débat.
En tout cas, moi, je vous ai dit ce
que
je pensais. Le vrai sujet, c'est l'islam politique, c'est le fait que certains veulent faire prévaloir la loi de la République, en tout cas, leur loi confessionnelle sur la loi de la République, et que ça est tout à fait insupportable. Je ne crois pas que le sujet, ce soit la distinction culturel, culinaire, artistique de certaines communautés, tout ça peut parfaitement cohabiter.
Le ton est beaucoup monté entre la France et la Turquie, encore ce week-end. Le président turc Erdogan met en doute, je cite, la santé mentale d'Emmanuel Macron. Des pays comme le Qatar, le Koweït, la Jordanie boycottent les produits français parce qu'on a décidé de continuer à publier les caricatures. Jusqu'où cette escalade peut nous amener?
D'abord, les propos de Recep Tayyip Erdogan sont inacceptables, mais peu surprenants. On a un dirigeant turc qui, depuis quand même de nombreux mois, nombreuses années maintenant, explique quasiment de façon directe qu'il veut reconstituer l'Empire ottoman, qu'il a une, comment dirais-je, qu'il a une vocation à faire prospérer l'islam politique dans son territoire. Il n'a pas eu un mot de condamnation, pas un mot de condamnation pour l'attentat islamo-terroriste de Samuel Paty en France. Et il joue aujourd'hui un rôle extraordinairement déstabilisateur. On l'a vu en Méditerranée avec la Grèce, on le voit aujourd'hui dans le Haut-Karabakh. Donc je crois qu'il faudra clarifier, et le président de la République l'a dit tel quel, il faudra clarifier quel est le rôle de la Turquie, quel est le rapport, quels sont les rapports entre l'Union européenne et la Turquie, quel est le rôle que doit avoir l'OTAN et comment la Turquie doit s'intégrer dans tout cet écosystème, toute cette dimension-là. Mais je le dis, enfin, je pense que, et les Français d'ailleurs le savent bien, et ceux qui contestent la République doivent aujourd'hui se dire qu'ils sont face à des choix. La République, ce n'est pas un pays à la carte, on choisit un peu la liberté et on refuse la laïcité. La République, elle est d'un bloc. Si vous voulez vivre dans un État autoritaire, si vous voulez vivre dans une République islamique, si vous voulez vivre dans une monarchie parlementaire, il y a d'autres pays pour ça, d'autres cultures où vous trouverez probablement davantage de bonheur selon vos goûts et vos préférences. Quand vous êtes en France, vous acceptez la République, elle est d'un bloc et la République, elle a été créée à la fin du 19e siècle, elle a été sécularisée pour une bonne raison, parce qu'on a estimé que c'était une façon de mieux faire cohabiter les citoyens ensemble, que ça nous soustrayait aux guerres de religion et que ça permettait aux hommes et aux femmes de s'émanciper librement, d'avoir un esprit critique. C'était l'esprit des Lumières. Ça a une raison. Ce n'est pas quelque chose de totalement arbitraire et aveugle. Donc je pense que nous devons peut-être revenir au pourquoi de la République et se convaincre à nouveau, si besoin en était, que nous vivions mieux en République laïque, sociale, que dans d'autres systèmes politiques qui, à mon avis, sont parfois un peu en perdition.
La question de la fin pour Nicolas Barré des Échos.
Le Premier ministre hier a présenté son plan pauvreté. Certains dans la majorité, depuis un petit moment, réclament encore davantage de mesures sociales compte tenu du contexte. Est-ce que c'est votre cas ?
Je l'ai dit tout à l'heure de façon un peu incidente. Je pense que sur la question sociale, sur la question de la mixité sociale, sur la question de l'héritage de la transmission, il y aura certainement des réflexions à mener en vue de 2022. Et moi, j'essaierai d'y prendre modestement ma part. Vous savez que j'ai rallié Territoire du Progrès aussi, donc la frange social-démocrate de la majorité, aussi pour pouvoir mener à bien ces réflexions-là et pour alimenter le programme en 2022 de ces idées.
Vous êtes déjà dans la préparation de la réélection du président de la République ?
En tout cas, dans la contribution sur le plan des idées. Moi, je pense que les idées sont importantes. Et je pense que probablement, et j'en prends ma part, ce mouvement, notre génération politique, a été une génération qui a subi des crises, qui a essayé de gérer le mieux du mieux qu'elle pouvait, mais qui n'a peut-être pas encore suffisamment alimenté sur le plan des idées. Moi, je souhaite continuer à contribuer modestement sur le plan des idées. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être à la fois dans la majorité, mais aussi à Territoire de Progrès, notamment pour adresser ces sujets complexes de mixité sociale, de soutien aux jeunes, de répartition des richesses. Je pense que ce sont des sujets qui ont vocation à être de grands sujets politiques dans les prochains mois, dans les prochaines années.
Eh bien, ça sera l'occasion de vous réinviter pour un autre grand rendez-vous. Un grand merci Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué au transport. Vous pouvez retrouver cette émission sur Europe1.fr et restez surtout sur Europe 1. On se retrouve dimanche prochain.
Europe 1.